Radio Barque pour notre 10e avec nos invités François Mourad et Magali Bardou, candidats, je le répète, aux élections municipales et communautaires. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu sur Carcassonne. Alors, entrons vraiment après ces préliminaires explicatifs sur la méthode, sur la genèse, en quelque sorte, de votre liste et de votre programme. Là, vous avez un programme et vous affirmez une intention ferme de transformer la ville de Carcassonne. Alors, concrètement, quelques axes, quelques explications ou illustration.
Oui, tout à fait. Donc, Carcassonne vit, on le sait, depuis de nombreuses années grâce au tourisme. Il est important pour nous de miser sur le fait que Carcassonne puisse devenir la première destination médiévale au monde. Nous en avons les moyens. Nous n'avons pas un décor en carton-pâte. Nous avons un vrai décor avec notre cité médiévale qui peut abriter tout au long de l'année des tournois, des défis, des programmes ludiques, des animations qui peuvent rythmer donc tout au long de l'année la venue des locaux comme des touristes. À notre avis, à ce jour, la cité n'est pas assez bien exploitée, n'est pas exploitée dans son entier. Il y a eu à l'époque sur Carcassonne des spectacles qui se déroulaient dans les rues de la cité et dans le grand théâtre Jean Deschamps, qui ravissaient les touristes comme les locaux, parce qu'il y avait une vraie trame, un vrai scénario, des vrais acteurs qui étaient impliqués et surtout un grand nombre de bénévoles.
Donc, et ça, c'était, excusez-moi, hors festival. Bien entendu.
Tout à fait. C'était hors festival.
Ça n'avait... Ce festival, d'ailleurs, est organisé pas par la ville, je crois, par le Centre des Monuments.
Le Festival de la Cité est organisé par la ville au sein du Grand Théâtre Antique, le Théâtre Jean Deschamps.
Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est une entité. C'est une entité, ce festival.
Oui,
c'est quelque chose d'autonome, en quelque sorte.
Oui. Tout à fait. Voilà.
Alors vous voulez élargir.
Élargir et puis surtout temporiser tout au long de l'année. Voilà, parce que nous avons ce décor merveilleux, ce joyau que tout le monde nous envie. Il faut l'exploiter autrement, il faut mieux l'exploiter, il faut le faire vivre cette cité. Mais elle est là, elle est plantée sur notre colline et elle domine notre villa et elle domine notre vie. Et nous avons décidé d'en faire autre chose.
Oui, alors il y a une petite spécificité que peut-être il faut expliquer aux auditeurs, c'est qu'il y a le château Comtal à l'intérieur, qui lui est une entité un peu particulière.
Oui, alors, il est vrai que beaucoup, même Carcassonnais, ne connaissent pas cette spécificité. La cité est gérée par un administrateur, qui est actuellement un administrateur adorable et charmant, M. Franck Doucet, et son titre, c'est l'administrateur du château et des remparts de la cité de Carcassonne. Alors, en fait, cette spécificité est basée sur le fait que le Centre des Monuments Nationaux, c'est-à-dire l'élaboration, si vous voulez, d'un travail entre l'État, le ministère de la Culture, se partage avec la ville de Carcassonne. Il est essentiel pour une très bonne exploitation du site qu'il y ait une collaboration étroite entre le Centre des Monuments Nationaux et la ville de Carcassonne. Nous y travaillons depuis déjà très longtemps.
Oui, mais ça ne vaut que pour le périmètre du château Comtal.
Non.
C'est périmètre une bâtisse militaire. De la cité. À ce titre-là, elle appartenait au ministère des Armées, la cité. Elle a vocation d'être détruite pour pierre. Hein. Elle a été sauvée par un saint homme qui était Crosmervieille, M. Crosmervieille, que l'on salue, on salue sa mémoire ici, qui a permis que la cité soit préservée, avec Viollet-le-Duc notamment, qui l'avait accompagné à Paris.
Et Prosper Mérimée.
Et donc,
ils s'y sont mis à trois.
La cité appartient à l'État.
Ah, la cité appartient, voilà, la cité toute entière.
Alors, vous avez la fameuse superposition de compétences. À l'intérieur, c'est une ville, donc la circulation s'applique, dont le pouvoir de police du maire.
C'est un quartier de Carcassonne, malgré tout.
Est-ce que ça va vraiment intéresser vos auditeurs? Je sais pas, mais la cité, c'est l'État.
Oui,
d'accord. C'est pour ça qu'il faut bien travailler avec l'État.
Oui, il y a une imbrication dont il faut être conscient, finalement. Mais, en tout cas, voilà, là, pour vous, la cité, c'est déjà un gros point, une animation, pas 24-24, 365 jours par an, mais enfin, beaucoup plus élargie et fournie que maintenant.
Tout à fait. C'est dans notre programme que nous détaillerons dans quelques semaines.
Et alors, à ce sujet, une étude statistique récente démontrait que l'immense majorité des habitants de cette cité n'y habitent plus, en fait.
C'est ça.
Cette cité a perdu ses habitants.
La cité a perdu ses habitants, actuellement résidente à l'année, uniquement à l'année dans la cité, une trentaine de personnes. Ce qui pose problème, parce que nous avons déjà réfléchi sur ce sujet avec les habitants restants, mais également avec les commerçants. Et il y aurait une envie de certains propriétaires bailleurs, propriétaires de murs, qui ne louent que la partie rez-de-chaussée dans le cadre d'une exploitation commerciale, qui seraient prêts à restaurer leurs appartements qui se situent au-dessus, qui ne servent actuellement que de réserve ou de stockage. Et ils restaureraient ces appartements afin de pouvoir loger dans le courant de l'année des étudiants et dans le courant de l'été des saisonniers qui viennent de travailler dans la cité, dans les restaurants, les cafés, les commerces existants.
Mais là, il faudrait que ça soit d'entente avec les propriétaires individuels.
Tout à fait. C'est une question d'échange, c'est une question de rencontre et de motivation que nous sommes tout à fait capable de transmettre à ses propriétaires bailleurs.
Voilà. Mais il restera quand même le fait que jamais une population sédentaire nombreuse ne reviendra dans la cité. Ce n'est pas dans l'ordre des choses.
Ça va être très compliqué. Moi, je pense plutôt à ce que je viens de vous exposer, plutôt que d'arriver vraiment à un résultat d'implantation d'une population sédentaire. La vie a énormément changé. Les contraintes sont assez pesantes pour les habitants de la cité. Et c'est tout à fait normal parce qu'il faut respecter des horaires, il faut respecter scrupuleusement ces contraintes-là. Si on veut pouvoir, justement, recevoir à peu près 2 millions de touristes ou un peu plus tout au long de l'année. C'est nécessaire.
Oui, voilà. Donc il faut appeler un chat un chat et dire les choses très clairement. Il y a ce qui est possible, il y a ce qui ne le sera pas.
Oui.
Alors, autre axe important, soit Magali, pardon, soit François Mourad.
Autre axe important ? Il y a plein d'axes importants.
Oui, oui, mais lesquels vous allez mettre en priorité des priorités ?
Est-ce qu'on doit être original ou pas ? Il faudra assurer la sécurité de nos compatriotes carcassonnés, parce qu'ils sont demandeurs de tout ça. Ils sont demandeurs, les commerçantes, de pouvoir rentrer le soir sans être obligés d'appeler leur mari pour qu'ils viennent les chercher. Ça pourrait... On en est là aujourd'hui.
Oui, dans les faits divers, Carcassonne apparaît assez souvent quand même en mauvaise part.
On
quoi.
Ne veut pas
violence,
parler ensemble avec Magali sur le chemin. On ne veut pas que des Carcassonnaises ou des Carcassonnais aient à changer leurs habitudes, aient à se demander où ils peuvent se garer, où ils ne peuvent plus se garer à partir d'une certaine heure. De ce point de vue-là, nous serons intransigeants. Nous savons qu'une démarche de prévention est nécessaire, nous le ferons. Mais une fois que la prévention est faite, la sanction sera terrible. Le législateur permet de sanctionner lourdement, permet de harceler, permet de terroriser le terroriste. Eh bien, nous allons terroriser les terroristes. Nous sommes pour cela accompagnés dans notre équipe par 3 lieutenants-colonels, 2 chefs d'état-major, qui, à mon sens, ont toutes les qualités requises, c'est-à-dire l'humanité nécessaire pour préparer une génération à s'approprier une image positive de la ville et la défendre, et en même temps sanctionner celles et ceux qui souvent sont étrangers à la ville et viennent salir la vie de nos quartiers, de nos rues, et dont on ne veut plus. Voilà, on avait déclaré avec Magali que ceux qui ne respecteraient pas les règles que nous souhaitons mettre en place devraient quitter la ville, mais nous le pensons et nous l'assumons. Ceux qui ne se sentiront pas bien dans cette ville-là seront des gens qui sont des voyous. Nous ne voulons plus de voyous. Nous ne voulons plus de gens qui viennent vendre de la drogue devant nos écoles. Et c'est clair. Je veux dire, on n'a aucune ambiguïté là-dessus. Donc ça, c'est un point qui est important. Le point de la santé est très important également.
Nous l'avons. Oui, petite parenthèse, ouais. Mais combien de PM, pardon, de policiers municipaux
aujourd'hui, effectivement, ou parce que vous avez comme partout un certain nombre d'arrêts maladie, on a des agents municipaux, peut-être Magali, je te laisse en parler.
Oui, une petite cinquantaine, et c'est ce qui est très important. François vient de parler de nos 3 lieutenants-colonels qui nous ont rejoints dans le cadre de la délégation de sécurité. Ce sont 3 hommes.
C'est police nationale ou municipale ?
Non, gendarmerie et pompiers.
Ah, gendarmerie et pompiers.
Et voilà, ce sont 3 hommes qui ont leur expérience professionnelle, mais surtout qui sont meneurs d'hommes. Les policiers municipaux ont envie et besoin de personnes qui savent manager, qui savent échanger, qui savent écouter au quotidien avec eux. Et c'est ce qu'il leur faut.
D'accord. Alors, bon, on clôt pour le moment le chapitre de la sécurité, de la tranquillité. Vous aviez mis le pied dans la porte là, sur la santé, M. Mourad.
Alors, nous sommes, M. Jules, nous sommes aujourd'hui les seuls à proposer, et c'est pas, on manque pas d'humilité, il faut le dire, c'est la vérité, les seuls à proposer un projet de santé applicable dès le mois de mars, qui nous permettrait l'ouverture d'un centre de santé au mois de décembre 2026. En réalité, Magali a parlé de quelque chose qui nous semble important, c'est le changement de méthode. Il faut se parler. Nous, depuis 3 ans, on a mandaté le docteur Rind, le docteur Audier, le docteur Mourad d'ailleurs, mon père aussi, et tout un tas de médecins qui nous ont donné un coup de main, qui sont ou de jeunes médecins retraités, ou des médecins qui vont prendre leur retraite, et ils ont pris leur bâton de pèlerin parce qu'ils aiment leur ville, parce qu'il leur est insupportable de dire non potentiellement à un patient, parce qu'ils ont prêté serment, parce que ce sont des hommes d'engagement, ben de travailler avec nous à mobiliser leurs confrères retraités et leur dire, écoutez, Magali et François ont besoin de nous, c'est une période transitoire, est-ce que vous êtes ok dans des conditions où nous n'aurions finalement à faire que voir des patients, nous n'aurons plus toute cette charge administrative, toute cette charge comptable qui est cœur les médecins aujourd'hui. Bon, nous n'aurions que ça à faire, voir des patients, et nous ferions quelque chose d'humain et de solidaire. Il se trouve que ça a été une...
Mais là, ça serait un centre de santé avec des salariés, oui, mais des médecins retraités qui ont déjà été actifs.
Et pas seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez presque 30 médecins de CPTS présents lors de la dernière réunion. Donc, c'est dire l'engouement pour ce projet.
Ça a été discuté en CPTS.
Mais il est également ouvert à de plus jeunes médecins qui, par exemple, voudraient s'installer dans des conditions où ils sont encadrés par des seniors. Vous savez, vous sortez de la fac de médecine... Vous n'avez pas vu tous les cas, vous n'en avez eu aucun encore. Bon, ben, si vous avez des médecins qui ont un peu plus d'expérience et qui vous accompagnent, dans un lieu où vous travaillez en commun, vous échangez, vous mangez souvent ensemble à midi, ça intéresse d'ores et déjà quelques jeunes médecins qui nous ont fait signe. Voilà. Donc je pense que c'est un projet qui a vocation à se développer dans le temps et surtout qui va offrir 20 000 consultations à peu près par an à des Carcassonnais qui n'ont pas aujourd'hui de médecin traitant. Et là, on parle d'urgence.
Oui.
Ensuite, il faudra convaincre ces jeunes médecins que la ville est très belle, qu'elle est très attractive, mais pour tout ça, il faudra qu'il y ait la sécurité dont je vous ai parlé, il faudra qu'il y ait une cité animée, comme Magali vous en a parlé, avec des commerces. C'est à nous de aujourd'hui répondre à l'urgence, dès demain, préparer l'avenir.
Alors, à propos de médecine, aujourd'hui, la municipalité actuelle a créé un système d'aide à des étudiants, à des étudiants en médecine. Est-ce que vous allez reprendre, vous greffer sur ce système-là, ou quel est votre regard là-dessus ?
C'est un dispositif, M. Jules, qui existe, qui n'a malheureusement aucune originalité, qui existe dans des villes de France depuis de dizaines d'années. Combien d'aides à l'installation de médecins nous avons voté avec Magali en tant que conseiller
départementaux.
Mais enfin,
comment être sûr après que le professionnel s'installera de manière durable dans notre ville.
C'est un pari un petit peu sur jambes de bois. Bon, écoutez, c'est moins pire qu'il ne se fasse rien du tout. Il y a beaucoup de dispositifs éclatés, Madame Delga, on l'aime ou on l'aime pas, mais enfin, elle a salarié des médecins à la région, elle a eu un certain nombre de résultats, et il faut savoir le reconnaître. Le département, depuis des années, en tout cas depuis notre élection, nous, c'était le cas avant, nous permet l'installation et aide l'installation financièrement de nouveaux médecins. L'agglo, un dispositif, la mairie aussi. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à peu près tout le monde autour de la table, et surtout des médecins.
Mais dans la droite ligne de la délégation santé, je voudrais ajouter que tout à l'heure, François parlait de la prévention dans le cadre de la sécurité. Nous allons mettre un accent très très important sur la prévention dans le cadre de la santé. Il y a un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le fait de développer le sport santé, le sport sur ordonnance. Actuellement, on sait que beaucoup de chiffres ont été publiés, et un chiffre qui doit claquer dans la tête quand même, c'est le fait que 1 euro investi dans le sport équivaut à 13 euros d'économiser pour la CPAM, pour l'assurance maladie. Donc nous voulons vraiment devenir une ville pilote dans le cadre du sport santé et du sport sur ordonnance. Nous l'avons déjà testé à la ville de Carcassonne, puisque le dispositif accueille 140 bénéficiaires sur les 10 dernières années. Nous voulons faire bien mieux que ça. Et si on compte une ville de 48 000 habitants, il faudrait, puisque la maladie malheureusement touche beaucoup de nos administrés, il faudrait que ce soit un dispositif qui accueille entre 1500 et 2000 bénéficiaires, puisque les résultats sont là. Nous avons déjà eu des résultats très positifs qui ont fait que certains bénéficiaires du sport sur ordonnance ont pu arrêter leur traitement médicamenteux. C'est tout, il n'y a rien à rajouter.
Voilà, donc Carcassonne, ville sportive à l'avenir. On marque sur ces magnifiques formules une seconde pause.